Je me souviens d'une fois, en revenant à la maison, j'ai pu contempler un spectacle merveilleux. Le soleil était en train de se coucher dans des grands draps de brume, tout illuminé de couleurs roses et orangées. Les rayons de lumière éclairaient par en dessous de gros nuages gris et blancs qui filaient dans le vent. On aurait dit des oiseaux géants en train de planer dans l'immensité au-dessus de la ville. Et entre ces nuages, très très loin, très très haut, on apercevait la lune, avec sa bonne grosse tête toute ronde, qui commençait sa promenade dans l'espace, en compagnie de ses amies voyageuses, les étoiles. Tout le monde sait que la lune n'aime pas trop la grande lumière du soleil, parce que ça l'oblige à cligner des yeux et à faire la grimace. Et comme elle est vraiment, vraiment coquette, elle prétend que c'est très mauvais pour les rides. Aussi, quand le soleil est bien couché et qu'il a même déjà commencé à dormir, elle en profite pour faire un grand tour dans le ciel et les étoiles l'accompagnent en faisant la ronde tout autour. À propos du ciel, ce que tout le monde ne sait pas, c'est ce que m'a raconté un de mes oncles qui habite loin au-delà des océans. Il avait entendu cette histoire au cours d'un de ses voyages à travers l'Afrique. Il y a bien longtemps de cela, c'est très très vieux, puisque c'est arrivé, paraît-il, avant il était une fois. Le monde n'était pas du tout, mais alors pas du tout comme celui que nous connaissons. À cette époque-là, le ciel était encore tout bas et tout près de la terre, et il faisait comme un énorme couvercle qui appuyait sur tout ce qui était un peu grand. Bien sûr, ce drôle de ciel très bas ennuyait beaucoup de monde. Les grands arbres, par exemple, ne pouvaient pas pousser tout droit car ils venaient buter contre le plafond du ciel. Alors ils étaient obligés de pencher la tête et attraper mal au cou, ce qui fait qu'ils étaient de très mauvaise humeur et se chamaillaient sans arrêt.
« Dis donc le grand chêne, là, arrête de fourrer tes branches dans le nez !»«
Et toi, espèce de baobab presque chauve, répète ça et je t'écorce la tête !»
Les montagnes, elles aussi, étaient très fâchées, car elles ne pouvaient pas être pointues. Elles étaient toutes plates sur le dessus, parce que le ciel qui s'appuyait sur elles était quand même très lourd. Et les petites collines tout autour, avec leurs jolies têtes toutes rondes couvertes d'arbres qui leur faisaient une belle chevelure, se moquaient de leurs grandes sœurs, les montagnes, avec leurs crânes tout plats et tout nus. Elles disaient
« Hé, mes petites sœurs collinettes, vous avez vu ces bêtasses de grandes montagnes avec leur air de bonhomme de neige sans cheveux? Elles font pas les fières, elles font pas les fières, nanana, nanana, de nanalair !»
De leur côté, les poissons dans l'océan ne s'occupaient guère du ciel qui descendait presque au ras de l'eau. Ils s'amusaient nuit et jour à plonger dans les profondeurs ou bien faisaient de folles parties de cache-cache au milieu des algues et des rochers. Il n'y avait que les poissons volants à être très mécontents. Quand ils jaillissaient de la mer, après avoir pris beaucoup d'élan pour planer au-dessus des vagues, il arrivait qu'ils sautent un peu trop haut et qu'ils se cognent la tête contre le ciel, si bien qu'ils avaient tous de grosses bosses sur le front.
Oh là 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 là, c'est pas Dieu ça, hein, c'est pas Dieu. On ne peut plus faire de looping et de saut périlleux sans se retrouver avec une tête de clou de cabossé.
Et un autre disait...
Mais à quoi servent-elles nos ailes de poisson volant si c'est pour rester dans la mer autant être un oiseau plongeant?
Il paraît même que certains avaient sauté tellement fort qu'ils s'étaient assommés et presque noyés en retombant dans l'eau. Et puis, plus loin encore, dans les grandes plaines de l'Afrique, les lézards et les serpents rampaient joyeusement. Mais les pauvres girafes, elles, tout comme les grands arbres, étaient obligées de pencher leur long cou en avant. Et quand par malheur, en dormant, elles se redressaient brusquement à cause d'un rêve, paf ! Elles cabossaient leurs petites cornes contre le ciel et se faisaient, elles aussi, de très vilaines bosses. Mais le plus triste à voir, oh oui, le plus triste à voir, c'étaient les oiseaux. Oh, bien sûr, les plus petits, comme les rossignols ou les mésanges, pouvaient volter sous les arbres en faisant bien attention de ne pas monter trop haut. Mais les plus grands, comme les vautours, les albatros ou les cigognes, étaient obligés de rester au sol. Et ils marchaient tristement, de long en large, en croisant dans leur dos leurs grandes ailes qui ne leur servaient à rien. Et la nuit, La nuit, quand ils s'installaient dans les arbres pour dormir, ceux qui habitaient en haut des branches n'avaient pas assez de place pour dormir à l'endroit. Alors ils étaient forcés de s'accrocher la tête en bas. Les canards, les oies et les pélicans, à cause de leurs pattes palmées, étaient évidemment moins bien accrochés que les autres. À peine commençaient-ils à s'endormir qu'ils se décrochaient et tombaient sur le sol à travers les branches en faisant un grand bruit qui réveillait tout le monde. Les seuls à ne pas être du tout gênés, c'étaient les chauves-souris. Bon, il faut dire qu'elles ne font jamais rien comme les autres. Tu te rends compte? Des souris qui ont des ailes sans plumes et qui volent. Par-dessus le marché, elles dorment le jour et se promènent la nuit. Et pour contredire tout le monde, elles trouvaient très confortable de dormir la tête en bas. Mais le plus malheureux de tous les oiseaux, c'était le grand aigle. Lui, il était fait pour voler plus haut que tous les autres. Il était fait pour aller presque toucher le soleil. Ses ailes immenses aux longues plumes pouvaient le porter dans les airs pendant des jours et des jours. Et pourtant, à cause de ce maudit ciel trop bas, il était condamné lui aussi à tourner en rond sur ses petites pattes aux doigts crochus, ce qui le gênait affreusement pour marcher. Non, vraiment, cela ne pouvait plus durer. Il fallait trouver une solution. Mais que faire? Oui, que faire? C'était bien la question que tous se posaient. Et bien justement, un beau matin, après avoir une fois de plus passé une très mauvaise nuit à cause des chauves-souris qui jacassaient et des pélicans qui se décrochaient, le grand aigle réunit tous les oiseaux et leur déclara
« Mes amis, puisque le ciel nous rend la vie impossible, que cela ne peut plus durer ainsi et qu'on n'arrive pas à trouver une solution, j'ai eu l'idée d'aller demander conseil à quelqu'un qui est, paraît-il, d'une grande intelligence. Nous allons donc envoyer un messager auprès du grand gnome de la caverne, car c'est lui dont je veux parler, et nous allons lui exposer notre problème. »
Là-dessus, l'aigle fit une pause, tout sauta d'un air gêné, puis reprit d'une voix un peu honteuse.
« Bien sûr, j'irai bien moi-même. » Mais nous autres, les grands oiseaux, n'avons pas assez d'espace pour voler, et nos ailes de géants nous empêchent de marcher. »
Il disait cela en toute modestie, pour faire oublier ses courtes pattes aux doigts crochus.
« Et le pays des gnomes est tellement loin. Si j'allais à pied, il me faudrait des mois, peut-être même des années, pour faire l'aller-retour. Ah, il vaudrait mieux qu'un petit oiseau soit volontaire, car lui, il pourrait voler sous les arbres de la grande forêt jusqu'au pays des gnomes. »
Un grand silence lui répondit. Personne n'osait le regarder. Certains fixaient le bout de leurs pattes d'un air très soucieux. D'autres se lissaient consciencieusement les plumes d'un air très occupé. Eh bien non. Il n'y avait aucun volontaire pour traverser la grande forêt, avec ses 1000 dangers inconnus, sans parler des grands arbres aux coups penchés qui vous cassaient les oreilles avec leur mauvais caractère. Le grand aigle avait déjà tourné le dos en haussant les épaules, et il commençait à s'éloigner tristement quand il entendit une toute petite voix derrière lui.
Grand aigle, grand aigle, hé hey, grand aigle, je veux bien t'aider, je veux bien t'aider! Envoie-moi chez les gnomes, oui, moi, chez les gnomes!
Celui qui parlait ainsi, c'était un tout petit oiseau beige et brun avec une petite huppe de plumes jaunes sur la tête. Il voletait de son mieux pour rattraper l'aigle. Ce dernier haussa une nouvelle fois les épaules en voyant cette minuscule bestiole, tellement insignifiante qu'on avait oublié de lui donner un nom. Le grand aigle s'apprêtait à le houspiller. Mais bon, puisque personne d'autre n'avait le courage de tenter l'aventure, il se ravisa et lui dit
« Eh bien, je suis d'accord. Tu es bien petit. Mais peut-être pourras-tu, grâce à cela, passer entre les dangers. Alors, va, petite chose. Je te souhaite un bon voyage et reviens-nous vite avec la réponse du grand gnome. »
Et c'est ainsi que le petit oiseau sans nom commença sa grande aventure. Il volta des jours et des jours à travers la grande forêt et ses 1000 dangers. Il traversa des pays dont personne ne soupçonnait l'existence. il vit des rivières et des lacs si grands qu'il eut l'impression de voler au-dessus des océans. Certains matins, il découvrit de splendides clairières baignées de lumière, et d'autres fois, il fut si émerveillé de la beauté de certains paysages qu'il se crut arrivé au bord du monde, là où rien ne pouvait être plus beau. Comme l'aigle avait deviné, sa petite taille lui permit de passer inaperçu de toutes les bêtes féroces. La nuit, il se cachait dans le feuillage d'un grand arbre, en supportant vaillamment ses plaintes et sa mauvaise humeur. Et le jour, il poursuivait sa route, toujours droit devant lui, sans se laisser distraire par quoi que ce soit. Un soir enfin, à la tombée de la nuit, il arriva devant l'entrée de la grande caverne des gnomes. Vois-tu, les gnomes, ce sont de tout petits bonhommes, pas plus hauts que deux pommes de grosseur moyenne quand ils se dressent sur la pointe de leurs larges pieds. Ils portent tous une salopette de cuir verte avec de grandes chaussettes et ils habitent des petites maisons très confortables, creusées dans des petits ronds qu'ils ont fait pousser dans la caverne, afin d'être bien à l'abri de la pluie, du froid et des bêtes féroces de la grande forêt. On prétend qu'ils sont très, très, très riches, mais personne ne sait d'où leur vient cette fortune. Comme presque tous les soirs, ils profitaient des derniers rayons du soleil à l'entrée de la grande caverne lorsqu'ils virent arriver le petit oiseau sans nom. Après les avoir poliment salués, celui-ci leur expliqua le but de sa visite. Le grand gnome, on l'appelait ainsi car étant le plus âgé et le plus sage, il était leur chef, mais en réalité, il était un peu plus petit que la moyenne. Le grand gnome, donc, l'écouta avec attention, puis fronça ses gros sourcils blancs et se gratta pensivement la barbe. Après un long moment de réflexion, il se racla la gorge et il dit
« Je suis vraiment surpris !»
Et oui, le grand gnome bégayait. C'était assez curieux, mais il bégayait. Et c'était un peu un problème, car même ses sujets, les autres gnomes, ne comprenaient pas toujours ce qu'il disait. Il continua.
Oui, je suis vraiment surpris. Je n'ai jamais remarqué que le ciel fût si bas. Mais bon, je veux bien vous donner un avis vivi là-dessus, puisque vous êtes venu de si loin, moins me le demander. Eh bien, je vous dis que je ne sais pas, papa. Le ciel, il est né comme ça. Mais mon papa et mon grand-papa l'ont toujours vu comme ça. Et mon grand-papa aussi. En tout cas, une chose est sûre, il faut surtout pas le pousser, l'essayer. Non, pas ça. Ah, pas possible, papa. Ce que disait papa, grand-papa, faut pas pousser, ça c'était papa. Pousser, pas.
Là-dessus, il se croisa les bras avec un étrange sourire et rentra dans la caverne, suivi des applaudissements enthousiastes de tout son peuple. Aïe. Le petit oiseau sans nom avait eu beau se concentrer au maximum, il n'avait rien, mais alors vraiment rien compris du tout. Ce grand gnome bégayait trop. Tout juste avait-il retenu des mots comme « ciel »,« essayer »,« pousser », »,« pas »,« papa »,« grand-papa », enfin, pour tout dire, c'était pas grand-chose. Mais le petit oiseau se devait d'apporter des nouvelles au grand aigle. Il n'avait même pas eu le temps de remercier le grand gnome qu'il prit aussitôt le chemin du retour. Il volta de nouveau courageusement sous les grands arbres pendant de nombreux jours tout en réfléchissant à ce qu'il allait annoncer à ses amis. À chaque coup d'aile, un mot lui passait par la tête.
« Ciel, papa, ciel, poussez, ciel, papa, poussez, ciel, essayez, ciel, grand, papa, ciel, poussez, essayez, ciel, poussez, ciel, papa. »
Enfin, arrivé dans son pays où tout le monde l'attendait, il prit fièrement la parole devant le grand aigle et toute l'assemblée. Prenant sa voix la plus assurée, il respira un grand coup et dit très vite d'un seul trait
« Alors voilà, le papa et le grand-papa du grand gnome, il a dit, le ciel, il faut essayer de pousser. »
Évidemment, ils furent tous bien étonnés en apprenant le conseil du grand gnome. Mais ils décidèrent de se mettre tous ensemble au travail pour essayer de soulever et de pousser le ciel. Alors, tout le monde poussa et poussa encore de toutes ses forces. Même les girafes avec leurs têtes, les éléphants avec leurs trompes et les grands arbres avec leurs branches. Tout le monde poussa. Et tout à coup, on entendit un grand craquement, puis un bruit de papier qui se déchire, mais en mille fois plus fort, et puis plus rien. à un endroit, le ciel s'était juste un peu décollé du dessus d'une vieille montagne. Cela faisait une toute petite fissure de rien du tout. Mais à présent, malgré les efforts acharnés de tout le monde, plus rien ne bougeait. Alors le petit oiseau sans nom, tout tremblotant de peur, se glissa dans la fissure afin d'aller voir de l'autre côté du ciel. Et ce qu'il découvrit le stupéfia. De l'autre côté, il y avait des centaines de gnomes avec de gros marteaux qui s'affairaient tous à clouer le ciel sur les montagnes. Oui, clouer le ciel sur les montagnes. Et à côté, d'autres gnomes armés de pelles et de balais faisaient d'énormes tas avec la poussière d'or qui tombait des comètes et des étoiles filantes. D'autres encore emportaient l'or dans des immenses brouettes jusqu'à une entrée secrète de leur caverne. Ainsi, c'était donc ça. Enfin, il comprenait. C'était ces traîtres de gnomes qui empêchaient le ciel de se soulever. Et voilà d'où provenait toute leur richesse. Il comprit alors ce que disait le grand gnome.
« Non, non, le ciel, il ne faut pas surtout pas essayer de le soulever. Surtout, surtout, surtout pas !»
Tout était clair. Le petit oiseau en avait assez vu. Il se glissa rapidement par la fente avant qu'on ne l'aperçoive et retourna bien vite près de ses amis leur raconter sa découverte. Lorsqu'ils eurent appris la vérité, les oiseaux, les arbres et les autres animaux furent envahis d'une grande tristesse mélangée à de la colère. Ah, ces gnomes, c'étaient les plus riches et les plus menteurs. La vieille montagne avait elle aussi entendu le récit du petit oiseau et elle était très, très indignée. Il fallait vraiment faire quelque chose. Alors, elle fit rouler d'immenses coulées de neige sur ses flancs, ce qui eut pour effet de réveiller son vieux copain le volcan, qui faisait une longue sieste depuis plus de 10 000 ans. Celui-ci, quand il apprit la nouvelle, fut tellement scandalisé qu'il en fit une énorme éruption de colère. Alors, tous les clous plantés par les gnomes furent arrachés d'un seul coup, et le ciel fut projeté en l'air avec une telle force qu'aujourd'hui encore, il continue de monter. Mais ce n'est pas tout. L'explosion fut si puissante qu'elle expédia tous les gnomes jusque dans les étoiles. Et voilà comment, depuis ce fameux jour d'il y a bien longtemps, les oiseaux chantent toute la journée pour exprimer leur joie. Les arbres ne se plaignent plus jamais et à présent, les nuits sont très calmes dans les forêts. Ainsi, tous les oiseaux peuvent depuis ce jour dormir enfin à l'endroit, sauf les chauves-souris qui ont gardé leurs vieilles habitudes. Elles dorment le jour et la tête en bas. Mais celles-là, elles ne feront jamais rien comme tout le monde. Mais ça, on le sait déjà. Le grand aigle, qui peut maintenant voler plus haut que tous les oiseaux, est dorénavant appelé l'aigle royal. Quant au petit oiseau sans nom, en souvenir de son exploit et du grand service qu'il a rendu, on l'appelle désormais le roitelet, ce qui signifie le petit roi. Et ce nom-là, il n'en est pas, papa, pas peu fier.